Bonjour tout le monde et bienvenue à Mental Health Much, le podcast qui parle de tout ce qui concerne la santé mentale et le monde queer. Et aujourd'hui, je reçois mon ami Aimé pour discuter d'antidépresseurs, de stigmatisation et de transition hormonale. Salut Aimé!
Salut Vincent!
Bienvenue sur mon podcast, je suis content de t'avoir.
Ah, mais moi aussi, super content d'être là.
Aimé, on se connaît parce qu'on est tous les deux francophones du milieu Toronto, puis on n'est pas beaucoup, donc c'est un tout petit milieu. Tu es réalisateur documentaire et on s'est connus en faisant de l'impro ensemble dans le milieu francophone.
Exact, ouais. Ben en fait, on s'est connus à Toronto, mais maintenant je suis de retour à Montréal depuis quelques mois. J'ai quitté ma petite communauté franco-ontarienne.
Oui, c'est ça la... C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais la réalité de vivre dans le milieu francophone à Toronto, c'est que presque tout le monde qui est francophone vit là de façon transitoire. Donc, ça fait une drôle de communauté, en fait.
Mm-hmm. Mais je m'ennuie quand même de Toronto, ça va. Ça reste dans mon cœur.
Si j'entends mes amis Catherine puis Mathieu dans ma tête qui disent « T'es bien mieux de pas partir, Vincent! »
Oui, c'est ça! Tellement.
Donc, Aimé, avant qu'on commence à parler d'antidépresseurs, parle-nous un peu de toi pour les gens qui n'ont pas eu la chance de te connaître dans le milieu francophone de Toronto.
Ouais, ben c'est ça. En fait, moi, j'ai 28 ans. Je suis taureau. Je viens de Lanaudière au Québec. J'ai vécu 5 ans à Toronto. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? Ben c'est ça. En fait, on va parler des antidépresseurs. Ça fait comme quelques mois que je prends des antidépresseurs. Mais à part ça, c'est drôle, tu sais, je dis ça comme si c'était une partie fondamentale de mon identité.
C'est ça, ça fait 5 mois.
Mais en même temps, c'est quelque chose qui oui, tu sais, change ton identité. Mais sinon, je suis une personne trans aussi. Je suis une personne non-binaire. J'ai commencé une transition hormonale. Ça fait 3 ans que je suis out comme personne non-binaire. Mm-hmm. Mais ça fait pas encore 3 mois que j'ai commencé l'hormonothérapie, la testostérone. Si vous entendez ma petite voix là, un petit peu enrouée, c'est parce que c'est un des effets secondaires de la testostérone dans les premiers mois. Sinon, ben, j'ai une personne qui aime le théâtre, qui aime l'impro, qui est vraiment sociable, puis qui aime se rencontrer des gens. C'est pour ça que le milieu documentaire, ça me passionne. Et raconter des histoires. Puis une fois de temps en temps, je fais du vélo, je fais du plein air beaucoup, du ski de fond, du patin. Puis j'ai un petit chien, un Shiba Inu à temps partiel avec mes parents. C'est pas mal ça. Voilà qui je suis.
Aimé, t'es une des premières personnes que j'ai rencontrées qui était francophone, qui a fait une transition, qui était une personne non-binaire. Ça a été vraiment un trajet avec toi de réapprendre le langage. Je sais aussi que t'as travaillé beaucoup dans ce milieu-là là, de c'est quoi en français avoir un langage non-binaire. Ça n'existe pas de la même façon qu'en anglais. Mm-hmm. Donc, premièrement, merci. Ça a quand même été formateur pour moi là, de t'avoir dans ma vie dans les dernières années. Mais c'est comme pas facile, en fait.
Non, c'est encore difficile.
Encore une fois, c'est pas vraiment de ça qu'on parle aujourd'hui, mais c'est super difficile et même mm-hmm. les pronoms IL, tu sais, vu que je vis presque 95% en anglais, je suis pas encore habitué de les utiliser. Ils sont encore un peu bizarres dans ma bouche, alors que they, them. C'est tellement facile.
Tellement. Ben c'est un peu pour ça que j'ai fait le balado aussi que j'ai fait sur le fait d'être francophone puis non-binaire. Puis même moi, c'est en faisant ce balado-là que j'ai réalisé pour TFO l'année passée. T'sais, puis c'est un peu cheesy, là, dans le sens où t'sais, je commence le balado en disant, t'sais, je cherche les mots pour me décrire, puis je vais à la rencontre de gens pour m'aider à trouver ces mots-là. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé dans la réalité. Mm-hmm. C'est vraiment en faisant des entrevues avec d'autres personnes non-binaires que j'ai trouvé... J'avais déjà entendu parler là, du pronom « yel », mais... Ça m'a pris vraiment du temps avant de moi l'accepter aussi, là, puis de le choisir. Puis j'avoue que de revenir à Montréal, c'est une de mes craintes parce que là, je vis en français, je vis beaucoup plus en français que quand j'étais à Toronto. Puis je me demandais, est-ce que les gens vont bien l'utiliser? Puis surprenamment, je suis vraiment surpris de voir à quel point les gens l'utilisent puis font attention, les gens proches de moi, même si ça a pris du temps, là. Comme, puis c'est encore un processus à tous les jours. Ça me touche tellement là, de voir à quel point les gens font des efforts. Mm-hmm. Ben, en fait, tu me fais penser, je ne l'ai pas dit, là, mais ouais, j'utilise le pronom « yel » et les accords masculins. donc, c'est ça. Mais ouais, c'est encore un défi, puis on choisit nos combats. Là,
ouais. C'est ça. Mais c'est dur, parce que quand je te parle, je n'utilise pas la troisième personne singulier, parce que je te parle à toi, puis tu es devant moi. Mm-hmm. Puis comme quand je parlais... que j'allais enregistrer avec mes amis, là, que j'allais enregistrer un épisode sur antidépresseur, mais mes amis sont anglophones. Fait que je leur parlais tout en utilisant des dames, puis c'était beaucoup plus simple.
Mm-hmm. Et tu vas voir, ça va venir.
Ouais. Ça commence à Montréal, là, c'est ça que j'entends.
Ah, il y en a vraiment plus.
Ah ouais?
Ah ouais, il y en a vraiment plus. Je viens de faire un projet sur une femme trans, puis dans le documentaire, il y avait comme deux autres personnes non-binaires qui utilisaient le pronom « «yel». ». Je trouvais ça vraiment cool, tu sais, mais bon, tu vois, l'équipe de tournage avec qui j'étais, mon directeur photo, mon preneur de son, c'était comme des hommes straight, blancs de la cinquantaine, soixantaine, qui avaient bien de la misère avec les pronoms, puis... Tu sais, c'est sûr que moi, en tant que réal, j'avais envie d'avoir une crew qui allait peut-être être un peu plus familière avec ça, mais en même temps, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est quand même beau de voir que, tu sais, aujourd'hui, je parlais avec mon directeur photo, justement, du projet, puis je voyais que déjà, là, il y a une amélioration, puis il se trompe vraiment moins souvent. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que c'est vraiment une question d'habitude, puis c'est juste normal que ça soit dur, il faut juste pas s'arrêter à ça, tu sais.
Mm-hmm. Tout à fait. J'ai amené tout ça parce que je vais mettre dans la description de ce podcast, je veux mettre l'épisode que tu as fait là.
Sweet!
Parce que pour vrai, c'est quelque chose qui est encore vraiment nouveau, puis j'ai vraiment aimé beaucoup cet épisode. Donc, je veux que tout le monde l'écoute. Mais vous aimiez mon podcast plus.
Vous allez voir, vous avez peut-être remarqué que ma voix est un peu moins enrouée dans le podcast que j'enregistrais il y a un an déjà.
Donc, Aimé, tu sais, tous mes auditeurs passent par la même question. Et cette saison-ci, la question, c'est qu'est-ce que tu penses qui est encore un des grands tabous en santé mentale?
C'est une très grosse question, je trouve. Parce que je trouve que même si on a l'impression qu'il y a moins de tabous, parce qu'on en parle plus, peut-être qu'on en voit plus passer sur les médias sociaux, je trouve que dans le monde réel, dans nos relations en personne, surtout au travail, dans nos familles, on a les mêmes attentes envers les gens, peu importe, ils en sont où, tu sais, dans leur, au niveau de leur santé mentale. T'sais. Fait que si une personne est en dépression, ou qui vit de l'anxiété ou, je sais pas, des troubles alimentaires ou de la bipolarité, on a quand même une espèce de norme sociale qui a pas changé, elle.
Mm-hmm.
Fait que pour moi, c'est ça qui fait que le tabou, c'est que, ah oui, tu peux en parler, mais il faut quand même que tu sois productif, puis il faut quand même que tu aies travaillé, puis il faut quand même que tu sois, tu sais, c'est ça, tu sais, un citoyen qui remplit son travail de citoyen. Puis je trouve que, tu sais, on est peut-être pas accommodant comme on devrait l'être.
Ouais.
C'est peut-être pas la meilleure comparaison, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, tu sais, de la réalité des personnes séropositives, puis j'ai l'impression que, tu sais, on a l'impression qu'aujourd'hui, vivre avec le VIH, par exemple, tu sais, on est à des années-lumière de ce que c'était, mais j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, ça n'aurait pas tant changé, tu sais, comme les stigmas sont encore là, même si, tu sais, comme, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça que ça prend du temps, genre.
Ouais. Ça m'avait vraiment fâché il y a quelques années, il y a une grosse campagne de publicité dans les métros ici à Toronto sur le VIH, puis tu sais, ça disait comme, saviez-vous que vous ne pouvez pas contracter le VIH en vous asseyant sur le même banc que quelqu'un qui est séropositif? J'étais comme, hey, yo, on est en 2017, pourquoi est-ce que c'est ça les messages? Puis j'étais vraiment fâché. Jusqu'à temps que je parle avec quelqu'un qui était dans cette campagne-là, puis qui était comme, ben non, cette campagne-là est basée sur, on a fait des recherches, puis on a demandé aux gens, puis tu sais, les gens pensent encore ça.
Mm-hmm.
Là, j'étais comme, encore fâché, mais comme différemment, là.
Ouais, mais des fois, j'ai l'impression aussi que ça vient de... Tu sais, par exemple, moi, quand je me souviens quand j'étais adolescent, pour moi, le VIH, le sida, puis l'homosexualité, ça avait aucun... Tu sais, il y avait comme aucun lien entre les deux. Tu sais, je faisais pas lien entre ces deux réalités-là, tu sais. Puis je me souviens, une fois, ma mère parlait avec une amie, puis là, il parlait de quelqu'un qui était décédé, tu sais, du sida, puis ma mère qui répond, « Ah ouais, je savais pas qu'il était gay, t'sais. » Puis moi, sur le coup, j'étais comme, hein, mais de quoi tu parles? Puis voyons, maman, t'as donc des préjugés, puis tout ça, tu sais. Puis, ben, tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que oui, historiquement parlant, puis ça, c'est vrai que c'est la communauté qui était la plus touchée, mais tu sais, comme si ça, des fois, il y a des généralisations ou des stigmas qui sont restés des générations précédentes. Puis même si moi, dans mon éducation à l'école, jamais il y avait eu un lien qui avait été fait ou que, tu sais, justement, il n'y avait pas eu de. Ces préjugés-là n'avaient pas continué à circuler à travers l'éducation, mettons, publique. De mes parents, ben, tu sais, là, j'étais déjà teintée, j'avais déjà une connotation, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui change peut-être moins vite. Ou, moi, par exemple, par rapport à la santé mentale, la dépression, le burn-out, quand je travaillais à mon ancien emploi, les gens, souvent, tu sais, il y avait d'autres personnes à un moment, là, qui avaient pris des congés de, puis je vais en parler, mais tu sais, qui avaient pris des congés de maladie pour cause de dépression ou de burn-out ou de, tu sais, problèmes de santé mentale. Puis on sentait, même si les gens ne le disent pas clairement. On sentait dans la manière qu'il y avait de nous annoncer ça, genre, ah, tel collègue est en congé de maladie, une espèce de pas de mépris, là, j'irais pas jusqu'à dire que c'est du mépris, mais de condescendance ou de comme, bon, un autre qui est faible, t'sais. C'est comme, c'est genre, ça venait avec ce souffle-là, genre, qui fait que t'intériorises ça, puis quand toi, ça t'arrive, ben, tu te dis, bon, c'est moi maintenant qui va, tu sais, ils vont dire ça, ils vont dire, bon, Aimé est en congé de maladie, bon, un autre qui a pas toffé ou un autre qui a pas, tu sais, comme si c'est moi, là, tu sais, intrinsèquement, qui avait un problème et non pas peut-être l'environnement de travail dans lequel je travaillais.
Le capitalisme.
Ouais, c'est ça, exact, tu sais, fait que c'est ces choses-là que je trouve que ça, c'est peut-être vers ça qu'on devrait se tourner, tu sais, puis qu'il y a encore du travail à faire, là.
Mm-hmm. Ce que j'entends aussi, c'est que, dans ce que tu dis, un des tabous qui existe encore, c'est que la santé mentale, c'est correct, mais que t'es obligé de commencer à aller mieux.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a cette espèce de santéisme, là, en français. En anglais, c'est healthism. Je sais pas en français si c'est le santéisme, mais que t'es comme obligé d'envie de te forcer pour aller mieux.
Mm-hmm.
Puis tu peux pas juste, comme, avoir des problèmes de santé mentale.
Ouais. Ouais, t'es comme une petite entreprise, là, toi-même, là, puis il faut que tu continues de performer dans le fait d'exister, là, puis dans le fait d'être en vie, puis de... Ouais, les biopouvoirs. Michel Foucault, je rentrerai pas là-dedans, mais il y a encore des tabous en santé mentale, ça, c'est clair.
En effet. Avant la pause, Aimé, t'as choisi de parler d'antidépresseurs, puis bon, en en parlant un peu, on s'est rendu compte qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation, puis aussi de l'influence avec ta transition hormonale. Qu'est-ce qui t'a décidé, quand je t'ai contacté, de parler de ce sujet-là aujourd'hui?
Ben, j'ai réalisé que moi-même, j'ai beaucoup cheminé dans la dernière année par rapport à la prise d'antidépresseurs. Ça fait pas encore un an que j'en prends, mais ça fait comme 8 mois à peu près. Puis que... Non seulement ma position avait changé, mais j'ai rencontré comme différentes personnes qui prenaient aussi des antidépresseurs, puis j'ai remarqué qu'il y avait tellement un stigma, même pour les gens qui en prennent, que je me disais que ça serait bien d'en parler. Puis surtout, il y a beaucoup de gens qui ont commencé les antidépresseurs pendant la pandémie, puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, tu sais.
Mm-hmm.
La santé mentale a particulièrement été difficile, tu sais, pendant la pandémie, mais moi, ça m'a aussi sauvé la vie, tu sais. Puis j'avais envie de partager ça.
Mm-hmm. Ben écoute, j'ai vraiment hâte de discuter avec toi, je suis content. Parce que je pense que, bon, ma question c'était qu'est-ce qui est encore tabou? Je pense que les antidépresseurs, c'est un immense tabou, fait que je suis content qu'on ait la chance d'en parler.
Mm-hmm. Parce que c'est complexe, parce que c'est pas noir ou blanc, parce que c'est pas juste comme, yeah, les antidépresseurs, ça règle tous nos problèmes, ou les antidépresseurs, c'est de la merde, puis on devrait tous s'en débarrasser, tu sais. Je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler, en fait, aussi.
Oui, tout à fait. Donc, prenons la pause. On est retour dans 10 secondes, puis on va en parler.
Bonne pause.
On est de retour, on parle d'antidépresseurs avec Aimé. Je pense que la meilleure façon, et peut-être la seule façon de commencer, Aimé, ça serait de parler de comment est-ce que ces antidépresseurs-là sont arrivés dans ta vie. Tu dis que ça fait environ 8 mois, là, et que la pandémie a été un facteur. Donc, parle-nous un peu de ton parcours.
Ouais, tu sais, disons qu'il y a plusieurs facteurs, là. Je dirais pas que c'est une chose qui a fait en sorte que j'ai besoin de commencer, je m'en allais dire, l'hormonothérapie, que j'ai commencé les antidépresseurs. Mais c'est surtout le fait que, ben, au niveau professionnel, j'avais comme un gros projet. Justement, on a parlé du balado que j'ai réalisé. Ça a été un gros projet pour moi, puis je l'ai fait en pandémie, à distance, de manière un peu isolée. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile, tu sais. Je pense que je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression, puis j'ai peut-être pas pris assez bien soin de moi, là, tu sais. Mm-hmm. J'ai peut-être manqué un peu de self-care, tu sais, dans ce projet-là. Puis parallèlement à ça, ben, j'avais ma transition de genre qui faisait que je me posais énormément de questions, que je vivais beaucoup de transphobie internalisée. Mm-hmm. Tu sais, je savais que j'étais non-binaire, mais je savais pas comment je me sentais par rapport à mon corps. Fait que, tu sais, tout ça, c'était beaucoup de facteurs stressants qui me causaient de l'anxiété. Et non seulement ça, mais j'étais dans une relation de couple avec quelqu'un. Ça a causé aussi beaucoup de tensions dans notre couple. Fait que, tu sais, tous ces facteurs-là mis ensemble ont fait que quand on a fini par se séparer, en fait.
Mm-hmm.
Donc, pour moi, ça a été comme un gros choc parce qu'on habitait ensemble. Moi, j'habitais à Toronto avec lui. Puis, tu sais, lui, c'est quelqu'un de Toronto. Moi, je venais pas de Toronto. Fait que j'ai comme passé toute la pandémie isolée avec cette personne-là qui était mon principal comme soutien social. Fait que là, j'ai perdu ça. Tu sais, puis déjà, je réfléchissais beaucoup par rapport à mon emploi parce que je me sentais plus heureux, tu sais, dans ce que je faisais. J'avais besoin de changement. Fait que là, tu sais, là, c'est comme si ma vie est devenue mon emploi. Puis là, je me sentais pas bien là-dedans non plus. Fait que tu sais, ça a comme un peu dégénéré jusqu'au moment où j'arrivais plus à travailler. J'arrivais plus à passer une journée sans pleurer, sans m'effondrer. C'était complètement noir. Puis j'avais des amis autour de moi qui me disaient, t'sais, mais ça fait un bout là que tu vas pas bien. Prendre des antidépresseurs. J'ai des amis aussi qui m'avaient dit que des mois avant ça, au moment où est-ce que je me posais des questions sur la transition puis que j'allais pas bien non plus, qui m'ont dit, tu sais, mais si tu veux commencer l'hormonothérapie, moi, je te suggère de prendre des antidépresseurs, de les avoir sans nécessairement commencer à les prendre, mais au moins d'avoir une prescription. Comme ça, c'est comme un coussin de sécurité si tu vas pas bien. Mais moi, j'étais plein de préjugés contre les antidépresseurs.
Parle-nous de ces préjugés-là.
Moi, mon background, avant d'être une personne queer, puis genre open, puis de lâcher un peu mon fou, j'étais une personne qui était beaucoup comme dans tout ce qui est naturel. J'étais comme plus hippie. Moi, j'étais arrivée à Toronto avec des super longs dreadlocks, puis genre, je prenais ma douche pas très souvent. Tu sais, j'étais comme, c'est vraiment deux extrêmes, là. Tu sais, les gens me voient pas en ce moment, mais tu sais, comme les cheveux courts, bleus, puis tu sais, j'ai un peu changé, là, tu sais, au niveau de mon identité à travers les années.
Est-ce que tu t'identifiais comme queer avant, il y a 3-4 avant 3-4 ans?
Ben, tu sais, mettons, quand j'ai emménagé, puis là, genre 6 ans à Toronto, non, j'étais comme triste. Ben non, j'étais en exploration.
Okay.
J'étais en exploration, là, tu sais, par rapport à ma sexualité, mais pas du tout par rapport à mon genre.
Right.
C'est quand je me suis rasé les dreadlocks, puis que j'ai rasé ma tête, que là, j'ai commencé à comprendre que mon genre était, en tout cas, qu'il y avait peut-être quelque chose là, tu sais. Mais bref, pour revenir à ça, j'étais quelqu'un, tu sais, qui croyait beaucoup dans la médecine naturelle. J'étais super critique de la médecine moderne. Tu sais, moi, j'étudiais en sciences politiques, puis toute la critique des sciences modernes, c'était vraiment comme ce qui m'intéressait, tu sais. Fait que j'étais vraiment critique de ça, de la violence obstétricale, le développement des hôpitaux modernes, tout ça, là. Fait que je pars de loin quand même, puis c'était super légitime, mes critiques, là. Encore une fois, c'est complexe, c'est pas noir ou blanc. Je rejette pas complètement qui j'étais. Je pense que, tu sais, j'ai évolué là-dedans, puis j'ai réussi à départager, tu sais, ce qui était moi de ce qui était peut-être des choses que j'avais appris, tu sais, puis que je voulais, encore une fois, peut-être performer quelqu'un que j'étais pas. Mm-hmm. Mais bref, tu sais, tout ça pour revenir aux antidépresseurs. Pour moi, les antidépresseurs, c'était les big pharma, c'est du monde qui faisait de l'argent sur notre dos, c'était un moyen pour la société capitaliste de continuer à fonctionner, qui pouvait jamais remplacer une vraie thérapie avec un thérapeute, puis tout ça, tu sais, puis que c'était comme quelque chose que tu prenais en dernier recours, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, fait qu'à un moment donné, je me suis rendue vraiment loin, là, tu sais, dans ma dépression, où est-ce que, il y a une journée, en fait, que je me suis dit, après avoir passé une nuit à faire une crise d'anxiété, là, je me suis dit, je veux aller à l'asile psychiatrique.
Fait que c'était quasiment mieux d'aller, genre, m'interner que de prendre des antidépresseurs.
Presque. À ce moment-là, je n'avais même plus de... C'était vraiment comme un mécanisme de survie de comme, je ne suis plus capable de prendre soin de moi. Mm-hmm. Je suis plus capable de prendre des décisions pour moi. Je vais extrêmement mal. Je vais juste me rendre à l'urgence puis je vais avoir des gens qui vont prendre soin de moi. Genre, qui vont me prendre en charge parce que c'était trop gros.
C'est un bon instinct quand même.
Oui, puis finalement, ça a donné que la même journée, j'ai vu des amis... puis ils m'ont pris en charge. C'est aussi le reach out, tu sais, d'être capable d'aller chercher de l'aide puis de dire à tes amis, parce qu'on est encore en pandémie, on est encore en confinement, fait que tu sais, de dire, hey, je peux-tu venir coucher chez vous à soir, c'est compliqué.
Ah ouais, ouais.
Il y a aussi le truc, c'est que les antidépresseurs, c'est pas magique, tu sais. Fait que même si cette journée-là où j'allais vraiment pas bien, je m'étais dit, ah, je commence les antidépresseurs, le truc, c'est qu'au départ, les effets secondaires des antidépresseurs peuvent être encore pires, tu sais, peuvent comme augmenter les effets de dépression, là. T'sais, j'avais lu là-dessus que t'sais, tu peux être plus à risque d'une tentative de suicide, par exemple. Fait que, t'sais, c'est quand même à prendre avec sérieux, là, t'sais. Mm-hmm. Mais bref, disons que ça m'a sonné une cloche, puis là, je me suis dit comme non, là, je vais vraiment pas bien. J'ai eu la chance de pouvoir retourner vivre chez mes parents pendant ce moment de transition-là, dans un environnement, tu sais, comme à la campagne, avec des animaux. Mes parents, ils ont des poules, ils habitent dans le bois. Tu sais, comme, j'ai quand même été vraiment privilégiée pour ça, tu sais, pour avoir comme cette petite oasis-là. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Puis ça l'a pris comme un bon 4 à 6 semaines avant que ça fonctionne. Puis les 4 à 6 semaines, ils ont été vraiment difficiles.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait cette espèce d'idée-là de... « Oh mon Dieu, c'était ma dernière chance, puis ça fonctionne pas. »
C'est qu'à un moment donné, j'avais comme l'impression que j'avais pas vraiment d'autres alternatives parce que je savais qu'il y avait trop de choses dans ma vie. Tu sais, quand il arrive un truc dans ta vie, tu peux te concentrer sur le reste, mais là, c'est comme si tout au complet, tous mes repères étaient tombés genre en même temps. Un peu, c'est comme ça que je me sentais puis que je l'ai vécu. Fait que c'était vraiment difficile pour moi, tu sais, de me rattacher à quelque chose d'autre pour me sortir la tête de l'eau, là, si on veut. Puis en fait, la toute première fois que j'en ai pris, j'étais chez un ami en commun, Antoine. J'étais chez Antoine. Entre Toronto puis Montréal. J'étais chez lui, tu sais. Puis là, je prends l'idée du siècle de faire comme « Ah oui, j'ai 4 heures de route pour me rendre à Montréal. Ah, je vais commencer les antidépresseurs à matin, tu sais. Ne faites pas ça à la maison. »
Est-ce que ça a aidé que tu étais avec Antoine?
Ben lui, il travaillait de la maison, mais moi, je l'ai pris le matin, puis tu sais, je suis partie de chez lui, puis là, les effets secondaires ont comme kick-in quand j'étais sur la route.
Fait que tu les as pas pris avec lui, là. C'était pas comme un « on en parle, puis je me décide ».
Ben, je pense qu'on en avait parlé la veille, tu sais, il savait, puis tout ça, puis j'étais comme « ah, je pense que je suis prête, tu sais, je vais l'essayer », tout ça. C'est sûr que ça l'aidait, ouais. À cette époque-là de ma vie, je dormais jamais seule. Je dormais tout le temps chez des amis ou la famille, là. Fait que c'est sûr que ça m'aidait d'avoir quelqu'un. Mais, tu sais, cette journée-là, c'est ça, tu sais, je suis dans l'auto, puis là, je commence à avoir, genre, des espèces de spasmes, de dizziness, là, tu sais, genre, mal au cœur, m'en transpirer, la bouche sèche, comme toutes les émotions là qui kick-in, j'ai mal au ventre, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi, tu sais, puis finalement, je me suis arrêtée dans un on-route, j'ai attendu un peu, puis je me suis dit, OK, non, c'est plus sage de retourner chez Antoine, puis j'ai passé la journée-là, puis là, j'ai attendu quelques jours, tu sais, là, je me suis dit, OK, c'est pas quelque chose que tu commences comme ça. Faut que tu te planifies, OK, ben tu sais, je vais attendre d'être chez mes parents dans un environnement safe où j'aurai pas besoin de conduire. Là, j'étais en arrêt de travail. Moi, j'ai quand même la chance aussi d'avoir un médecin de famille à Toronto qui m'a... Tu sais, j'ai pu avoir un arrêt de travail. Mais la première fois que j'ai essayé, ça m'a fait vraiment peur. Mm-hmm. Puis ce qui m'a fait le plus peur, puis je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui est commun pour beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs, c'est la perte de contrôle, tu sais. C'est que là, t'as l'impression que t'es plus en contrôle.
Quel genre de contrôle?
Ben, c'est que, tu sais, justement, tous ces effets secondaires-là, ils s'installent. C'est beaucoup d'effets secondaires. Mais en tout cas, tu sais, il y en a qui ont... On a tous des effets secondaires différents, puis il y en a qui en ont moins. Il y en a qui vont changer leur médication, puis tout ça, ou qui vont changer de type d'antidépresseur.
Mm-hmm. Ça, c'est quand même important à dire, là. Les antidépresseurs, ton médecin, il t'en prescrit une sorte, mais tu n'es pas obligé de...
Non, absolument.
C'est pas obligé d'être ceux-là qui fonctionnent pour toi, là. T'as le droit... les prendre, les essayer, c'est comme acheter des souliers, j'arrête pas de dire ça, mais tu sais, quand tu vas acheter des chaussures, tu prends pas, tu vois pas le vendeur puis il dit, hey, toi je te regarde puis ça doit être ces souliers-là qui te font, tu sais, c'est la même chose pour les antidépresseurs. Là.
Exact. Puis le dosage aussi, tu sais, ça joue, à quel moment de la journée tu les prends, si tu manges en même temps ou pas, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer aussi, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Mais moi, je pense que je suis une personne qui aime avoir le contrôle dans la vie sur ce que je fais, ce que je suis, ce que je dis, comment j'ai... Puis là, les antidépresseurs, c'était comme, je sais pas ce que ça va donner, tu sais. Je sais pas qui je vais devenir. J'avais l'impression que ça allait pas être moi.
Mm-hmm. Ça, c'est vraiment une crainte, là, que tout le monde a quand on parle de médication, qui disent... ça sera pas moi, ça va me changer, je serai plus artistique.
Tellement, tellement.
Puis je pense que c'est très un stéréotype des années 80 ou les années 70, je sais pas dans quelle année, mais que ça a commencé, mais tu sais que là, ils droguaient souvent les enfants, là, à un point de les rendre comme mm-hmm. complètement plus un. Tu sais, il y a des épisodes dans les Simpsons, il y a cette trope-là, il y a cette idée-là que... si tu prends des médicaments, tu changes complètement, radicalement la personne que tu es. Puis, tu sais, c'est pas vrai, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, mais quand t'es une personne, tu sais, moi, je pense que je suis une personne qui est quand même créative, tu sais. Ben, créative, qui mm-hmm. qui a un tempérament d'artiste, tu sais. Puis, il y a toute cette romantisation-là, là, de ah, tu t'as des up and down, mais dans le fond, t'es down, c'est ce qui te permet de créer, puis d'aller au fond de toi, puis de, tu sais, sortir le. Fait mal, puis là, c'est là qu'on va créer de la vraie art qui va sublimer. En tout cas, tu sais, j'exagère, là, mais en même temps, il y a comme cette idée-là qui persiste. Puis là, tu te dis, hey, les antidépresseurs, ça va me rendre beige, tu sais, ça va me rendre gris, ça va me rendre uniforme, édulcoré, genre, puis c'est pas vrai, là, vraiment. C'est pas vrai. mais moi, c'est ça qui me faisait peur, tu sais, mm-hmm. vraiment, là. Puis jusqu'à ce que j'ai une de mes amies qui travaille en santé mentale, justement, puis... J'y disais, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas moi, tu sais, où je me reconnais plus, tu sais. Puis même si tu vas mieux, tu sais, c'est quand même si tu vas mieux, t'es comme, tu te sens pas coupable, mais c'est comme si tu, tu sais, c'était pas toi, tu sais, t'étais pas, tu sais, j'avais de la misère à me dire, genre, à être fière, que, tu sais, comme, non, aimé, tu sais, c'est toi, tu le mérites, tu vas mieux, puis c'est parce que t'as fait du travail, c'est comme, ah non, tu sais, je me sens mal, c'est comme si c'était quelque chose à l'extérieur, tu sais, puis que c'était faux, puis que, tu sais, mm-hmm. puis elle me disait, c'est drôle, hein, parce que, est-ce que tu penses que la personne que t'étais quand t'étais en pic de dépression, c'était plus toi? Est-ce que tu penses que c'est ça ton identité, de pleurer constamment, de faire des crises d'anxiété, de pas être capable d'être seule, tu sais? Ça, c'est ta personnalité ou c'est la maladie, tu sais?
Ouais.
Puis là, ça a complètement changé ma perception parce que je me suis dit, ben ouais, c'est ça, c'est que la dépression, c'est une maladie aussi, tu sais. C'est pas normal de tout le temps pleurer. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui, pendant la pandémie, tu sais, que je voyais qui pleuraient pas mal plus qu'à l'habitude, tu sais. Puis je me disais, c'est pas normal de pleurer comme ça tous les jours. Mais on dirait qu'on se dit, qu'on l'associe des fois à un trait de personnalité quand que, mais il y a peut-être des moyens qu'on peut, tu sais, ne pas être comme ça puis être mieux dans notre peau, là.
Ouais. C'est bizarre quand notre souffrance devient notre identité.
Mm-hmm.
Ça arrive quand même fréquemment là, à beaucoup de personnes. C'est ça qu'ils ont connu, ces up and down-là ou cette dépression-là, cette douleur-là. À un tel point que quand ça arrête, ils se font pas confiance. Ils font pas confiance à la vie. Ils font pas confiance à ce qu'ils ressentent. Puis ils pensent que c'est pas eux. Mais c'est beau ce que ton ami a dit, tu sais. La souffrance, c'est pas une identité, tu sais.
Ben non.
Je suis pas mal sûr que t'étais pas plus créatif quand t'étais dans ton pic de dépression.
Tellement pas. Ouais, c'est ça.
Es-tu devenu beige?
Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire. Mais tu sais, des fois, j'étais comme... Tu sais, il y a comme un autre cliché aussi des antidépresseurs qui te rendent vraiment high, là. Mais des fois, j'étais un peu dans cet extrême-là, tu sais, d'être tellement content, d'être tellement enjoué. Puis en même temps, c'est le fun, tu sais, je veux dire. C'est le fun de se lever le matin puis d'avoir envie de se lever, tu sais. Ça m'était pas arrivé souvent pendant la pandémie d'avoir envie de me lever le matin, puis là, ça me tente de me lever le matin, puis c'est vraiment... C'est un cadeau, là.
Ça me fait penser à ce que je disais avec Eric, où tu disais quasiment avec dédain, là. Je me levais, je suis tellement content, je suis tellement enjoué, puis c'est comme, eh oh, je suis une personne contente et enjouée, tu sais.
Ça peut, ouais, c'est ouais. Ça. Mais bref, puis tu sais, après, il y a plein d'autres facteurs dans nos vies qui ont une influence aussi, tu sais. Puis, tu sais, moi, je sais que je suis aussi une personne qui a des tendances addictive, là, tu sais. Avant, je disais, je suis passionnée, j'ai beaucoup d'intensité. Maintenant, je suis comme, moi, je suis peut-être un peu addict à ben des trucs, tu sais, qui fait que, c'est ça, tu sais, qui fait que des fois, quand j'ai des stimuli ou que, tu sais, je vis, tu sais, les choses de façon plus intense, là, justement, fait qu'avec les antidépresseurs, des fois, quand que, tu sais, mettons une journée normale où est-ce que, tu sais, ça va bien, mais là, c'est comme ça va encore mieux, tu sais, juste plus content. Mais je vois pas ça comme un truc négatif, là, au contraire, là.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des... écoute, c'est vraiment une question pointue qu'il faudrait poser à des médecins ou à des pharmaciens, mais est-ce qu'il y a des contre-indications avec les hormones, tu sais, ta transition hormonale puis les antidépresseurs? Est-ce que tu es au courant de ça un peu?
Ouais, ben oui, vraiment, c'est une bonne question parce que, non, au contraire, la testostérone puis les... moi, je prends le citalopram. C'est ça le nom de l'antidépresseur que je prends, qui est dans la catégorie des SSRI. Mm-hmm. Je sais même pas c'est quoi en français. mais c'est la sérotonine, là. C'est que ça agit sur la sérotonine dans ton cerveau, là. En gros, ça fait en sorte que la sérotonine reste plus longtemps. Comme au lieu d'être évacuée, elle reste là plus longtemps. Puis c'est ce qui fait que t'en as plus dans ton organisme, là. Puis avec la testostérone, non, mais tu sais, la testostérone, ça a même été prouvé que ça a comme un effet un peu déjà antidépressant aussi, là, tu sais. Ça donne plus d'énergie que, par exemple, l'estrogène, là. Fait que c'est sûr que moi, tu sais, je fais une transition transmasculine, là. Tu sais, je dirais que ça peut être différent pour ce qui est des femmes trans, mais tu sais, je pourrais pas parler dans le cas des femmes trans, mais tu sais, honnêtement, dans pratiquement tous mes amis transmasculins prennent aussi des antidépresseurs, tu sais.
OK.
I don't know if it's a good thing or not. C'est comme juste un fait que... Mais je pense que oui, tu sais, je pense que la transition, ça peut être difficile puis que c'est correct aussi, tu sais, d'en prendre. Mais il y en a que ça n'a pas rapport avec la transition, là. Il y en a que c'est arrivé plus tard dans leur vie. Il y en a qui ont vécu d'autres trucs. Fait que, tu sais, je veux pas faire d'association facile. Hein. Mais contre-indication, non. Par contre, tu sais, c'est sûr qu'il y a certains trucs avec lesquels il faut que tu fasses attention, tu sais, avec les antidépresseurs, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines drogues récréatives qu'il faut que tu évites, disons, parce que tu peux avoir ce qu'ils appellent un... serotonin syndrome. Comme, je sais pas en français c'est quoi, mais c'est justement, si tu prends par exemple d'autres drogues récréatives qui eux aussi ont un effet sur la sérotonine, comme par exemple la MDMA, ça peut être dangereux, tu sais, parce que là tu peux avoir trop de sérotonine dans ton corps. Puis tu sais, c'est très dangereux, genre comme tu peux en mourir. Là. Fait que tu sais, c'est quelque chose à pas prendre à la légère. Mm-hmm. Mais mis à part ça, non, ça n'a pas une grosse incidence, tu sais, sur mon hormonothérapie.
Bon, il reste encore beaucoup de stigmatisation là, au niveau des antidépresseurs. On est pas live, mais tu en parles ouvertement.
Ça fait pas longtemps que j'en parle là, ouvertement.
Ouais, mais tu sais, en même temps, ça fait pas très longtemps que t'en prends non plus là.
Fait que, non, effectivement. Mais disons que, par exemple, quand j'ai commencé à en prendre cet été, avant que ça fasse effet, surtout. Avant que ça fasse effet, parce que là, j'avais non seulement le stigma des antidépresseurs, mais j'avais aussi le stigma de la dépression, tu sais. De l'échec un peu. Mm-hmm. Puis je me souviens, tu sais, en ce moment, tu sais, je suis dans une école professionnelle de cinéma, tu sais, à Montréal. Puis pour des causes, tu sais, de sécurité puis d'assurance, il fallait que les étudiants, on écrive si on prenait de la médication, tu sais. Puis j'ai même pas été capable de marquer que je prenais des antidépresseurs parce que j'avais trop peur. Parce que, encore une fois, j'associais ça à s'ils savent, ils vont se faire des idées sur moi, ils vont me voir comme une personne faible, puis pas fiable. Tu sais, c'est comme si je me disais, si les gens savent que j'ai fait une dépression, ils vont se dire, ah, c'est quelqu'un qu'on peut pas se fier professionnellement parce que, bon, si t'en as fait une, tu sais, tu pourras en faire une demain matin, puis là, nous, on va pas prendre ce risque-là, tu sais. Fait que, ouais, non, j'avais vraiment peur d'en parler. Puis c'est à un moment donné, tu sais, je me suis dit, waouh, tu sais, au contraire, je devrais pas avoir honte de ça, tu sais. Moi, c'est un outil qui est là, puis c'est un outil qui m'a aidé, puis qui fait que je vais bien, là, puis ça va super bien à l'école, puis ça va bien au niveau social, ça va bien dans la famille, puis c'est pas juste les antidépresseurs, on s'entend, mais comme, je pense que c'est là aussi que j'ai eu le déclic. Aussi par rapport au fait que j'en parlais avec d'autres monde, puis que je me rendais compte que c'est ça, même quand moi j'en parlais, les gens qui en prenaient me le disaient pas automatiquement, puis je me disais, waouh, c'est fou, hein, tu sais, moi je m'ouvre, puis je me rends vulnérable en partageant cette information-là, puis eux, ils ont tellement de stigmas eux-mêmes qu'ils sentent même pas, tu sais, comme en confiance de le partager à quelqu'un qui en prend aussi, tu sais. Fait que je me disais, waouh, ça va vraiment loin. Fait que c'est ça qui m'a comme, on dirait que ça m'a, je me suis dit, je veux pas être cette personne-là non plus, tu sais. J'ai envie qu'on se sente libre d'en parler, tu sais. Fait que ça vient de là aussi, là.
Mm-hmm. Puis c'est quoi la réaction des gens quand tu leur dis que tu prends des antidépresseurs? J'imagine que tu vas avoir des réactions différentes, les gens qui en prennent puis les gens qui en prennent pas.
Mm-hmm. Ben, tu sais, étonnamment, il y a vraiment beaucoup de monde qui en prennent. Ben, je dis étonnamment, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui en prennent, puis on le sait pas, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, j'ai un ami cette semaine qui avait un post sur Facebook, tu sais, qui avait oublié une dose, justement. Puis là, elle demandait, j'aimerais-tu doubler ma dose ou j'aimerais attendre? Puis là, de voir tout le monde qui répondait, ah, moi, je suis sur tel antidépresseur, puis moi, je t'ai conseillé ça, ta, 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 je me disais, waouh, c'est fou, hein, le nombre de monde, tu sais, qui en prennent, puis qu'on ne sait pas, genre. Fait que, mais tu sais, aussi, j'ai fait ma transition cette année. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus stigmatisant d'être une personne trans qui commence l'hormonothérapie ou d'être sur les antidépresseurs. Puis ça aussi, ça m'a... Tu sais, moi, de faire une transition, je me suis dit, je ferai jamais quelque chose d'aussi dur dans ma vie. Mm-hmm. Fait qu'on dirait qu'après ça, il n'y a plus grand-chose qui me font peur dans le sens où, tu sais, je suis moi, puis je m'assume, tu sais. Fait que ça aussi, ça l'a beaucoup joué, là, je te dirais, là.
Mm-hmm. Est-ce que tu vois une différence entre... les réactions quand tu parles de faire une transition puis quand tu parles d'antidépresseur, est-ce qu'il y en a un de ces comme quote unquote like médicaments là, c'est pas le bon mot, mais qui vient avec
plus de stigma
ou différent de leurs normes sociales de comment les gens réagissent?
Ben c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas mal plus rare de faire des injections de testostérone que de prendre des antidépresseurs dans notre société.
Ouais, ça dépend avec qui tu te tiens, là.
Ça dépend avec qui tu te tiens, effectivement. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, je prends mes parents, par exemple, ma famille proche, qui, eux, ne prennent pas d'antidépresseurs, qui sont des personnes de ce genre, tu sais. Moi, je suis chanceuse, j'ai les deux. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que mes parents, que je prenne des antidépresseurs, ça les stressait, là, au début, là. Ben, pas ça les stressait, tu sais, je pense qu'ils m'ont vu au fond du baril, puis ils étaient contents que, genre, j'agisse pour ça, mais c'est aussi que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, puis tu sais, que constamment, ma mère me demandait, mais là, tu vas prendre ça combien de temps, puis là, tu sais, ben, les effets secondaires, puis tu sais, je sentais qu'elle avait, comme, entendu beaucoup de choses, tu sais, négatives sur les antidépresseurs, puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, ben, maman, tu sais, j'en prends jusqu'à ce que j'aie mieux ou que je sente que j'en ai plus de besoin dans ma vie, tu sais. Tu sais, ce qui est drôle aussi avec quand on compare un peu l'hormonothérapie, la testostérone et les antidépresseurs, c'est que c'est des médicaments que tu peux prendre toute ta vie, tu sais. Mm-hmm. Ben, dans le cas de la testostérone, je veux dire, la majorité des hommes trans en prennent à vie, là, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a une fin à ça. Je veux dire, après, moi, je suis une personne non-binaire, puis il y a de plus en plus de personnes qui sont fluides dans leur genre, qui peuvent en prendre pendant 6 mois, arrêter, recommencer, tu sais, fait qu'on voit, tu sais, de plus en plus des gens qui expérimentent, si on veut, avec leur monothérapie. Les antidépresseurs, ben, je connais aussi des gens qui prennent ça à vie, tu sais, qui ont essayé à plusieurs reprises d'arrêter, puis qui se sont juste rendus compte que dans leur cas, ben, à chaque fois qu'ils arrêtaient, ils retombaient vraiment dépressifs ou avec l'anxiété, puis ça fonctionnait juste pas, puis qu'ils se sont rendus compte que, ben, pour eux, de prendre ça à tous les jours, sur une longue période de temps, c'était ce qui était le mieux pour eux, tu sais.
Je pense que ça, c'est un des tabous ultimes, là, autour des antidépresseurs, c'est l'idée de devoir les prendre à vie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens... Tu sais, je sais pas pourquoi, là, tu dis ta mère, puis j'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'une mère dirait de comme, OK, ben là, t'en as besoin en ce moment, mais, tu sais, c'est temporaire, là, tu vas aller mieux.
Ou tu sais, comme, fais attention, comme si ça allait devenir une dépendance, tu sais, comme si c'était comme l'alcool ou une drogue, tu sais, que là, ton corps allait être dépendant, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, les antidépresseurs, tu sais. C'est vrai que c'est pas quelque chose que tu peux arrêter du jour au lendemain, mais pas parce que c'est une dépendance, mais parce que t'as des effets secondaires, tu sais, qui vont être là, fait qu'il faut que tu y ailles progressivement, tu sais. Mais t'as pas de période de sevrage, là, avec les antidépresseurs.
Est-ce que t'as encore ça dans ta tête, quand je vais les arrêter, ou... Parce que c'est vraiment une trap de comme les gens vont mieux, puis là, à cause qu'ils vont mieux, mais ils vont mieux à cause des antidépresseurs, puis là, ils arrêtent de les prendre, puis là, ben, ils vont plus mieux.
Ben, tu sais, je pense que là, on rentre peut-être dans le moment de la conversation où est-ce que, tu sais, on peut aussi, genre, se poser la question... qu'est-ce qui dérange tant que ça avec les antidépresseurs? Pourquoi que les gens, ça les dérange? Parce que dans le fond, c'est ça aussi la question. C'est moi, ce qui me dérange avec les antidépresseurs, c'est si on commence à investir que là-dedans, puis que nos fonds publics vont... Parce que c'est ça aussi, tu sais, moi, c'est couvert par le gouvernement, mes antidépresseurs. Ah, mais ma thérapie en personne avec un professionnel de la santé, elle n'est pas couverte. Fait qu'il y a ça qui est fondamentalement qu'on doit se poser cette question-là, tu sais.
Tout à fait.
Moi, j'avais un employeur qui me permettait aussi de prendre des congés de maladie prolongés, j'avais des assurances. Tu sais, j'avais beaucoup de privilèges par rapport à ça. Puis, y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas, tu sais, se permettre d'avoir ce, tu sais, d'autres formes de soutien. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça qui est dérangeant, le fait que ça devient le numéro un. Puis aussi, pourquoi est-ce qu'on en prend? Pour aller mieux, oui. Pour, dans mon cas, par exemple, tu sais, où j'avais des idées noires, tout, c'était pour ma vie, là, c'était ma survie là, qui en dépendait. Mais après ça, si on en prend juste pour être, encore une fois, tu sais, des êtres humains fonctionnels qui vont performer au travail puis qui vont produire pour la société capitaliste dans laquelle on vit, ben oui, moi, je suis critique de ça, tu sais, c'est clair. Fait que je pense que t'sais, il faut faire attention aussi à ça, puis t'sais, se demander, ben, t'sais, on a quand même ces technologies-là qui existent, on peut en bénéficier, mais comme, comment ça s'inscrit dans une pratique plus globale, finalement, de la santé? T'sais? Puis moi, c'est sûr que je me suis posé la question, t'sais, là, je fais un programme de 6 mois en ce moment intensif, fait que t'sais, je recommence à chercher du travail en ce moment dans mon domaine. Là, je me dis, bon, quand est-ce que j'arrête mes antidépresseurs? Je les arrête en même temps que mon programme? Ben non, parce que là, ça, mon programme, c'est une stabilité dans ma vie. Fait que là, ça serait comme trop de transition en même temps. Fait que là, est-ce que j'attends de me trouver une job? Là, il faudrait-tu que j'aie comme des assurances aussi comme ça? Si j'arrête puis j'ai besoin de prendre comme 3 semaines, 1 mois off à cause que j'ai trop d'effets secondaires, mais je peux me le permettre. Tu sais, c'est comme une gestion, là, vraiment, là, tu sais, de comment est-ce que je vais faire ça? Parce que moi, je pense pas que je serais capable d'arrêter tout en travaillant. Je pense que les effets secondaires sont trop, dans mon cas à moi, personnellement, tu sais. Fait que oui, tu sais, c'est comme toute une gestion, mais même là, tu sais, de se poser la question, depuis le départ, que je planifie quand est-ce que je vais arrêter, parce que, surtout quand j'ai commencé, comme je disais, j'avais plus de craintes, tu sais, par rapport aux médicaments. Aujourd'hui, je vis quand même mieux avec ça, mais tu sais, n'empêche que dans la dernière année, j'ai déménagé, j'ai eu une rupture, j'ai commencé l'hormonothérapie, j'étais en attente pour avoir une mastectomie. Tu sais, je veux dire, c'est quand même une grosse année, puis je me dis, OK, pendant cette année-là, peut-être que c'est correct de prolonger la prise d'antidépresseurs, tu sais, parce que...
Ben, pas peut-être.
Ben, ça, il est comme, arrête pas les antidépresseurs!
Non, c'est pas ça que je t'écris. Ce que je dis, c'est comme, vas-tu arrêter d'être en thérapie? Vas-tu arrêter de manger? Vas-tu arrêter de faire des choses qui sont bonnes pour ta santé? Pourquoi est-ce que cette pression-là d'arrêter les antidépresseurs, puis de, tu sais, je l'entends là, un peu ta voix de, est-ce que je les prends juste pour être productif dans la société capitaliste? Je comme, je comprends là les problèmes systémiques qu'on a avec notre société, mais c'est aussi le monde dans lequel on vit, puis c'est le fun de se sentir productif jusqu'à un certain point, là.
Ah, absolument, tu sais, puis encore là, je m'écoute parler, puis je me dis, waouh, hein, c'est comme si moi, j'avais des bonnes excuses pour être sur les antidépresseurs, mais les gens qui vivent pas tout ce que moi, je vis, mais là, ils devraient peut-être arrêter. Puis c'est tellement pas ça que je veux dire, tu sais, mais c'est comme si malgré moi, il faut que j'aie des justifications. Mm-hmm. Parce qu'on est encore là, parce que même si j'en prends puis que je veux faire, tu sais, militer pour ça, je suis moi-même pris en dedans de moi avec ses propres dilemmes-là, tu sais.
Est-ce que tu te rends compte, c'est super intéressant en fait, est-ce que tu te rends compte que quand tu parles de tes antidépresseurs, tu te sens obligé, sans que les gens aient demandé, de dire la liste des choses qui sont arrivées pour lesquelles t'en prends, ou est-ce que tu peux juste comme casual dire comme « Ah non, je prends des antidépresseurs ».
C'est une bonne question. Souvent, ça vient avec le fait que je dis que j'ai fait une dépression puis un burn-out. C'est rare que je dis juste que je suis sur les antidépresseurs. Je suis une personne aussi qui est quand même capable de s'extérioriser facilement puis qui n'a pas peur de nommer les choses, mais c'est vrai que j'ai tendance à expliquer le pourquoi du comment, puis ouais.
Ouais, tu sais, il y a comme une différence un peu entre on se parle parce qu'on est amis, fait que, tu sais, on se parle des vraies choses, puis comme, ah là, je suis en train de donner des excuses ou donner des explications mais peut-être que tu fais pas ça, c'est juste, ça m'a fait penser à ça, notre conversation.
Mais c'est fou. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est parce que moi, étant donné que dans la même année, j'ai commencé les antidépresseurs puis l'hormonothérapie, le rapport de ces deux médicaments-là, finalement, sur mon identité, je trouve ça fascinant, tu sais, parce que je me souviens quand j'ai commencé les antidépresseurs, en plus, là, écoute comment que moi, mon cas, c'était fou raide, là.
T'es vraiment une bonne personne, là, pour les antidépresseurs.
En plus, j'ai eu ma deuxième dose de vaccin de Moderna la même semaine. J'étais KO, là, mais bref, puis je suis allée en camping avec ma sœur puis ses amis que je connaissais pas, tu sais. Mais là, moi, je suis une personne absolument super extravertie, tu sais, j'aime ça mettre les gens confortables, tu sais, je suis comme beaucoup dans l'énergie puis dans le social, mais là, j'avais aucune énergie, genre, j'allais pas bien, puis là, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, c'est pas moi, ça, là, ils vont me voir, ils vont penser ça de moi, ils vont penser que je suis une personne plate, une personne renfermée, introvertie, puis je me disais, mais non, tu sais, c'est pas moi. Fait que, tu sais, ce rapport-là, a commencé à changer, puis même chose cette semaine, j'ai oublié une dose. Mais je suis allée m'acheter un petit pilulier avec les journées de la semaine pour être sûre que ça arrive pas, parce que pour vrai, c'est pas le fun quand ça arrive. Mm-hmm. Donc, j'ai oublié une dose cette semaine, puis j'allais rencontrer une collaboratrice pour le film sur lequel je travaille, que j'admire beaucoup, tu sais, c'est une réalisatrice, puis tout ça, puis j'avais tellement hâte de la rencontrer, mais là, ça a donné que c'était le lendemain que j'avais oublié ma dose. J'étais KO, j'étais comme, j'avais pas d'énergie, j'arrêtais pas de bailler. Là, je me disais, ah, oh, c'est pas moi, ça, genre, tu sais, comme, je suis tellement plus cool d'habitude, mais c'est comme... Puis, tu sais, au départ, je voulais pas les prendre parce que je me disais, hey, moi, sur les antidépresseurs, ça sera pas mon vrai moi. Puis là, maintenant, c'est comme quand j'en prends plus, je suis comme, non, mais c'est pas moi, ça, c'est absolument, je suis de bonne humeur. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est un peu fou comment que ça forge aussi, puis ça l'influence, tu sais, notre personnalité, puis ce qu'on a l'impression que les autres perçoivent de nous aussi, là. Mm-hmm. C'est quelque chose que je voulais mentionner aussi, à quel point le fait d'avoir commencé l'hormonothérapie pendant que je prenais des antidépresseurs, au départ, je me disais, est-ce que je prendrais cette même décision-là si je prendrais pas des antidépresseurs? Parce que, comme dans mon cas, les antidépresseurs, c'est pour la dépression, mais aussi l'anxiété, je me disais, je suis moins anxieux, fait que j'ai moins peur d'aller de l'avant, tu sais. J'ai moins peur d'être dans l'action, finalement. Puis là, je me disais, oh, tu sais, est-ce que c'est parce que là, les antidépresseurs me permettent de faire quelque chose sans trop me soucier du jugement des autres, puis que là, quand je serai plus sur les antidépresseurs, hein, parce que je me dis tout le temps qu'il va y avoir un moment où je serai plus sur les antidépresseurs, mais là, je vais me dire, oh mon Dieu, t'aurais jamais dû commencer la testostérone, tu sais, fait qu'on dirait que ça aussi, là, tu sais, c'était gros pour moi, tu sais.
C'est comme si les personnes trans puis les personnes non-binaires commençaient leur monothérapie sur un coup de tête, là.
Ouais, genre, ouais.
C'est tellement...
non, c'est ça, ouais.
Ça n'arrive pas dans la vie. Les gens... Là, écoute, je parle d'une identité qui n'est pas la mienne, mais tu sais, c'est pas un coup de tête, là. Les gens, ils pensent, c'est énorme. Je peux même pas concevoir, parce que moi, je me suis jamais vraiment posé de questions sur... J'ai ce privilège-là de ne pas m'être posé de questions sur mon genre, mais tu sais, je pense pas que si soudainement, je prends des antidépresseurs, je vais commencer une transition hormonale, tu sais. c'est pas comme ça que ça marche, là.
Mais non, puis tu sais, on s'entend, la première fois que j'avais parlé de testostérone à mon médecin, c'était en 2019, tu sais, puis j'ai commencé en décembre 2021. C'est ça, tu sais, c'est comme... Ça faisait longtemps que je l'avais en tête, là.
Mm-hmm. Mais ça aussi, c'est un tabou puis un stéréotype, là, que les personnes trans, ils font juste... C'est un coup de tête qu'ils vont regretter. Non, tu sais, les gens y pensent, là.
Ouais, et puis tu sais, c'est aussi progressif, tu sais. C'est ça qui est drôle, c'est qu'avant de commencer, t'es comme... Tu sais, moi, j'ai commencé le 1er décembre, puis c'est comme, ah, le 1er décembre, ma vie va changer, tu sais. Je serai plus jamais moi, tu sais, finalement. C'est tellement progressif comme changement que, genre, pour vrai, tu sais, c'est comme une puberté, je veux dire, c'est comme tu te réveilles pas le lendemain, puis tu mesures 6 pieds, puis t'as une barbe, là, je veux dire, c'est comme, c'est sur plusieurs années, mais c'est la même chose pour les personnes trans, là, tu sais.
C'est-tu comme super underwhelming, la première dose, tu sais, de comme, oh mon Dieu, c'est excitant, puis là, tu le fais, tu sais, comme, hey, y a rien qui a changé.
Non, mais moi, j'étais tellement contente, j'étais tellement heureux, tu sais, puis je l'ai faite avec mon cousin, qui est mon coloc en ce moment, puis sa date de fête, c'est le 1er décembre.
Okay.
C'est un homme gay que, genre, quand on était jeunes, on était proches, puis, tu sais, je l'ai aidé beaucoup dans son coming out ado parce qu'on vient d'un petit village, puis, tu sais, ça a été tough pour lui, puis là, le fait que, genre, je vis ma transition, puis ça, avec lui, c'est vraiment beau, tu sais, puis il était comme, oh, on va avoir la même date de fête maintenant, tu sais, genre, c'est tellement cute, puis on a soufflé des chandelles, puis c'était le fun, mais, tu sais, c'était tough. En fait, ce qui est tough, c'est l'injection, là. S'injecter soi-même, c'est comme ton cerveau, il est comme « don't do that, don't do that ». Ça a été un plus long processus. Puis tu sais, au début, genre, mes amis trans riaient de moi parce que j'étais comme « oh mon Dieu, genre, je pense que mon bras, genre, est tout changé de place ». Parce que ça, c'est un truc, genre, c'est la répartition de ta masse adipeuse, elle change de place, là, tu sais, parce que les hommes et les femmes n'ont pas nécessairement le gras au même endroit, là, tu sais. Puis... là, tu sais, après deux semaines, j'étais genre, oh mon Dieu, genre, j'ai plus de fesses, tu sais. Je me disais, comme, mais non, mais c'est impossible, tu fais juste deux semaines, tu sais. Mais genre, dans ma tête, on dirait, je voulais tellement aussi voir les effets, tu sais, arriver que, pas que je m'en inventais, là, mais pas loin, tu sais.
Écoute, Aimée, on a vraiment beaucoup parlé des antidépresseurs, puis aussi de transition hormonale. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire?
Mais j'ajouterais peut-être, mais comme dernier truc, mais j'en ai parlé un peu, que même si je prends la parole aujourd'hui, sur ce sujet-là en particulier, c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, j'ai encore une peur associée genre au niveau professionnel.
Mm-hmm.
J'ai peur que ça me nuise professionnellement de dire que j'ai fait une dépression puis de dire que je prends des antidépresseurs. Puis ça, tu sais, je mentirais de dire que cette peur-là, elle est partie parce qu'elle est encore présente. Puis je trouve ça vraiment dommage, tu sais, parce que je pense qu'au contraire, tu sais, de prendre des antidépresseurs, c'est un signe que, de self-care, tu sais, puis c'est un signe que tu es capable d'aller chercher les outils quand t'en as besoin, tu sais. Mais je tiens à le mentionner, tu sais, parce que c'est pas si facile que ça d'en parler publiquement.
T'as tout à fait raison, puis des fois j'y pense, puis combien de temps ça va prendre avant que t'aies pu ce fardeau-là sur les épaules de t'es quelqu'un qui a fait une dépression puis qui était obligé de prendre un arrêt de travail.
Mm-hmm. Ouais, exact.
Écoute, prenons la deuxième pause, puis on va revenir pour parler de qu'est-ce qui a aidé dans ta transition avec les antidépresseurs. De retour pour la dernière section, on parle encore de l'antidépresseur, de stigmatisation, puis de transition hormonale avec Aimée. Aimée, la dernière section, on parle un peu des choses qui ont aidé. On a parlé beaucoup du fait que t'es très transparent, t'es très honnête avec tout le monde. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, ça?
Je pense que oui. Tu sais, je pense que clairement de le dire aux gens, puis je pense que de façon générale dans la vie, de se rendre vulnérable, ça aide les gens dans leur compréhension, leur compassion, leur empathie. Fait que c'est clairement quelque chose que j'ai... puis tu sais, que j'ai dû faire aussi, là, tu sais, en parler. Je pense que ce qui m'a aidée aussi, ben c'est certain que, en fait, le fait, quand les antidépresseurs ont commencé à faire effet, ça m'a tellement permis de prendre des décisions dans ma vie, tu sais, parce que j'allais tellement pas bien, mais j'avais des grosses décisions à prendre, tu sais. Je me demandais, bon, est-ce que je garde mon emploi? Est-ce que je reste en Ontario? Est-ce que je me trouve un nouvel appart? Est-ce que je reviens à Montréal? Est-ce que je commence un programme d'études, le programme dans, tu sais, que je fais en ce moment à Montréal? J'avais tellement de choses, de décisions importantes à prendre dans ma vie. Puis ça, c'est à part, justement, la transition de genre.
Mm-hmm.
Donc, c'est certain que les antidépresseurs m'ont permis de être capable de prendre cette décision-là pour moi, tu sais. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai fait des adaptations aussi dans... Tu sais, tantôt, on parlait des types d'antidépresseurs, puis d'à quelle heure t'es prends. Tu sais, moi, au départ, je les prenais le matin, puis j'étais complètement endormie tout le reste de la journée. Tandis qu'il y en a d'autres pour qui les antidépresseurs, c'est à cause de l'insomnie, qui n'était pas mon cas, tu sais. Donc, moi, j'ai commencé à les prendre la nuit, fait que c'est la nuit que j'avais mes effets secondaires, mais je dormais quand même, fait que c'était moins pire, fait que j'ai commencé à être plus fonctionnelle le jour.
Donc, d'être comme actif dans les choix que tu prends autour de la prise de médicaments. Est-ce que je les prends les matins, le soir avec de la bouffe, sans bouffe? Quelle dose? Est-ce que je parle avec mon médecin? Est-ce que j'essaie quelque chose de nouveau? Là, c'est vraiment des choses qui aident quand on commence une nouvelle médication.
Ouais, vraiment. Puis je pense que c'est important, c'est justement d'avoir ces conversations-là avec ton médecin. Hein. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que moi, ce qui a aidé aussi ma situation, tu sais, ma santé mentale, outre les antidépresseurs, c'est que je me suis dit, OK, là, tu prends des antidépresseurs puis ça t'aide, mais tu sais, tire le meilleur de ça pour toi à long terme aussi, là, dans le sens où, tu sais, moi, j'ai des tendances à procrastiner, tu sais, je suis un petit peu un éternel adolescent, hein, tu sais, disons que, tu sais, il y a certains aspects de ma vie, genre les finances, genre programmer à long terme, tu sais, ces trucs-là, j'ai un peu de misère avec ça, puis, tu sais, je me suis dit, OK, mais là, je vais mieux, fait qu'il faut aussi que je sois capable de mettre en place, tu sais, des bases plus solides dans ma vie qui vont faire en sorte que, tu sais, si je retombe ou quoi que ce soit, ben, tu sais, mes bases sont peut-être plus solides ou, tu sais, de pas gêner pour faire du travail thérapeutique, là. Justement, tu sais, c'est comme si tu avais un coussin de protection qui fait que tu peux plus retomber aussi bas. Fait que de dealer avec des trucs plus difficiles de ta vie, tu sais, des traumas ou genre des expériences que tu avais comme mis de côté dans un tiroir que tu avais jamais rouvert, mais que tu te dis, OK, un jour, faut que je fasse ça pour avancer. Ben, tu sais, moi, c'est un peu ce que je fais en ce moment. T'sais, en ce moment, je fais beaucoup de thérapie, je lis beaucoup là-dessus, j'écoute plein de podcasts sur la psychologie, les théories d'attachement, de dépendance, t'sais, tout ça. Puis c'est un travail qui est tough. Je veux dire, la thérapie, c'est pas facile. Là. Quand tu le fais pour vrai, puis tu t'investis, puis que tu y mets de l'énergie, tu viens brasser des trucs à l'intérieur de toi, puis c'est pas le fun. T'sais. Fait que là, après 8 mois d'être sur les antidépresseurs, puis à aller mieux, j'ai du temps pour ça. Mm-hmm. Je me suis permis de faire la fête aussi, tu sais, cet automne. Je me suis permis d'être sociale, de rencontrer du monde, justement, de recommencer à dater, tu sais. Puis ça m'a fait extrêmement de bien, tu sais, de me permettre ça, tu sais, de me permettre d'être comme là, profite-en, genre, parce que t'as pas eu ce plaisir de vivre. Tu sais, j'ai pas eu le plaisir de vivre pendant, tu sais, les dernières années. Puis là, j'avais besoin de ça, mais là, je suis rendue à un moment où est-ce que, bon, là, c'est plus l'heure de travailler sur toi, puis je pense que ça serait extrêmement difficile de le faire si j'avais pas les antidépresseurs en ce moment, tu sais.
Ouais, je pense que c'est de trouver une balance aussi, tu sais. C'est beau ce que tu dis qu'il faut profiter de la vie parce que autant que être dépressif ou pleurer tout le temps, c'est pas une personnalité. Être en thérapie puis faire du travail sur toi, c'est pas une personnalité non plus, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'entends souvent parce que je travaille beaucoup en dépendance, tu sais. Puis les gens sont... Ça fait tellement longtemps qu'ils sont en thérapie pour la drogue, qu'ils sont en thérapie pour la dépendance que des fois, quand que je... On se met à parler de « OK, mais tu sais, les autres aspects de ta personnalité, c'est quoi? » Puis les gens font comme « Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien de parler de moi qui est pas juste de parler de la drogue que je prends. » Fait que tu sais, je pense que c'est cette balance-là aussi que tu nommes qui est super important.
Ouais, tellement. Puis quand je parle de cette période-là, des premiers mois, est-ce que j'allais bien puis est-ce que j'étais dans le plaisir, tu sais, j'étais quand même à l'école puis... Aussi, c'était drôle parce qu'avant, j'ai toujours été un élève assez modèle, là, dans le sens où, tu sais, faire mes trucs, puis d'avoir les meilleures notes. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, je vais bien, c'est important à l'école, mais maudit que c'est pas si important que ça, c'est ça, comme quand tu mets ça en perspective, genre. Mais en même temps, c'était aussi comme de me donner de l'amour, puis de faire comme, j'avais envie de m'aimer, tu sais, parce que je pense que j'avais passé beaucoup de temps à pas le faire, puis que... De me dire, je peux être cette personne-là aussi, ça fait partie de moi. Puis si pendant une couple de mois, c'est plus là-dedans que j'ai envie d'investir, ben c'est correct, tu sais. Puis c'est ça, c'est juste de retrouver des raisons pour m'aimer, tu sais. Puis il faut pas être prêt, tu sais, il faut pas trop être pressé non plus d'être comme, oh mon Dieu, genre, il faut que j'aille mieux, parce que c'est comme, c'est mettre une pression, puis ça, c'est pas mal que ça marche, là, tu sais.
Mm-hmm. Tu sais, c'est quoi aller mieux au final? Tu sais, comment tu fais pour quantifier, est-ce que je vais assez mieux pour dire que je vais mieux, tu sais?
Mm-hmm.
Une autre chose, je pense, quand on parle de dévoilement, des fois, il y a un temps puis il y a une place pour parler de dévoilement. Je pense que, tu sais, j'ai beaucoup, moi, parlé de dévoilement quand je travaillais dans le milieu VIH, tu sais. C'est pas tout le monde qui a besoin de savoir que t'es séropositif. C'est peut-être pas tout le monde, tout le temps, qui a besoin de savoir que tu prends des antidépresseurs.
Mm-hmm.
Mais c'est aussi important d'être capable d'en parler au moins à certaines personnes. Tu sais.
C'est quand même important qu'il y ait des gens autour de toi qui savent, tu sais, quel type de médication tu prends. Là. Ne serait-ce que pour des juste pour une question de santé. Là, tu sais.
Ouais.
Je dirais que moi, dans mon cas, j'ai une alarme sur mon téléphone le soir à 10h30. C'est mon alarme pour mes antidépresseurs. C'est une chanson des Beatles que j'ai fait. À chaque fois que je suis avec des gens, tu sais, souvent, mettons, des gens que je connais moins, là, que ça fait moins longtemps qu'ils sont dans ma vie, puis que l'alarme, elle sonne, ben là, tu sais, c'est sûr qu'ils me demandent « Ah, t'as une alarme, c'est pourquoi? » Fait que, mm-hmm. clairement, ça m'ouvre la porte à en parler. Puis souvent, même si c'est la première fois que je rencontre ces gens-là puis que j'ai aucune idée de leur opinion sur les antidépresseurs, je le dis parce que je me dis « J'ai-tu envie, moi, d'avoir des gens dans ma vie qui jugent les gens qui sont dans les antidépresseurs? » Ou que, tu sais, si eux, ils ont un problème avec ça, honnêtement, ça marchera pas, nous deux. Fait que je me dis, tu sais, j'en parle, là, même si c'est la première fois que je rencontre quelqu'un pour mon alarme sonne, je suis comme « Ah ouais, c'est mon alarme pour mes antidépresseurs. » Même si je sais que je viens comme de lâcher une petite bombe, peut-être. Puis souvent, ben tu sais, c'est l'occasion pour eux d'en parler si eux aussi en prennent, genre. Mm-hmm. Fait que pour moi, maintenant, j'en parle plus, tu sais.
Tu sais, je pense que les choses ont évolué, spécialement, genre, les générations plus jeunes, là. Je pense pas que dire, oh, je prends des antidépresseurs, et les gens font comme, oh mon Dieu, prends des antidépresseurs.
Mais c'est drôle, parce que tantôt, tu me disais, tu me demandais, ah, oh, tu sais, la réaction des gens, puis je me disais, hey, c'est fou, hein, je remarque pas tant la réaction des gens, on dirait que je m'en fous, tu sais. On dirait que dans le fond, la plus grande difficulté, elle vient de moi, est à l'intérieur de moi. C'est comme, à partir du moment où ce que moi, je laisse aller, puis que je me dis, genre, que je me stigmatise pas moi-même, puis que j'en parle, tu sais, c'est comme la vraie épreuve, c'est d'en parler. Une fois que j'en parle, que les gens réagissent comme ils veulent, comme je dis, rendu là, je suis juste tellement fière de moi pour être moi-même, puis pour pas me cacher, pour plus me cacher, parce que c'est ça aussi, hein. Quand t'es une personne trans, là, tu t'es caché en crise dans ta vie, tu sais. T'es même un expert pour te cacher, puis t'es un expert pour faire semblant que ça vient, puis t'es un expert pour avoir mille et une identités qui sont pas la tienne, tu sais. Fait que pour moi, de me montrer moi-même, comme, puis d'être vulnérable, c'est vraiment comme un progrès dans ma vie, tu sais. Puis même que si ça fait débat, puis si on en jase parce qu'on n'a pas des opinions, tu sais, nécessairement pareilles sur le sujet, ben tant mieux, tu sais. On aurait eu une discussion, puis les deux, on va pouvoir avoir cheminé, tu sais. Mais ouais, c'est important pour moi de plus le cacher, là.
Mm-hmm. Ben, félicitations. Une chose dont on n'a pas parlé... Il y a beaucoup de stigmatisation au niveau des antidépresseurs qui, à mon avis, puis je pense que j'ai raison en grande partie là-dessus, qui sont basés sur du sexisme puis de la misogynie, tu sais. Je pense que l'idée des antidépresseurs, c'était beaucoup... je me rappelle quand j'étais jeune, là, quand on voyait à la télévision des gens prendre des antidépresseurs, c'était des femmes blanches dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. C'était ces femmes-là qui prenaient des antidépresseurs et elles étaient toujours comme... C'était leur personnalité, là, c'était de prendre des antidépresseurs, peut-être des femmes névrosées, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais je pense que c'est important de se rappeler puis de combattre ça quand on parle d'antidépresseurs parce que ça provient juste de stéréotypes qui étaient écrits par des hommes pour faire des blagues dans des films puis dans des émissions de télé.
Mm-hmm. Oui, la misogynie et le sexisme, ouais, c'est ça. Ben clairement, mais c'est aussi, tu sais, comme que statistiquement parlant, ben il y a plus de femmes qui vont chercher de l'aide puis qui parlent de santé mentale, tu sais. Fait que c'est aussi ce qui explique, je pense, cette différence-là.
Ah ouais. Écoute, le nombre d'hommes hétéros qui font pas de recyclage parce que le recyclage, c'est gay. Imagine les antidépresseurs.
Ouais, c'est ça, mais qui vont juste pas chez le médecin. Puis tu sais, tantôt, je parlais que j'étais critique de la science moderne, mais tu sais, la science moderne, c'est aussi développé sur le contrôle du corps des femmes, tu sais. Mm-hmm. C'est ça, il y a vraiment un truc par rapport au contrôle des femmes, tu sais, dans notre société qui passe par la pharmacologie, tu sais, puis la médecine. Puis oui, il y a eu des avancées pour le mieux, là, je veux dire, c'est pas tout négatif, mais clairement, genre, c'est intéressant d'avoir une analyse spécifique de genre sur cette question-là. Puis c'est ça, ça continue de véhiculer des stéréotypes aussi, tu sais.
Mm-hmm.
Ça, le tabou est tellement là encore, là, de... On le sait que les gens... Tu sais, moi, je me souviens, une de mes tantes avait fait une dépression. C'est comme, ouais, elle a fait une dépression, mais on n'en parle pas, tu sais. Puis c'était comme, on savait pas trop quoi dire. On sait pas comment réagir, on sait pas quoi dire à quelqu'un qui... Tu veux pas lui dire ça va, parce que t'es comme, mais non, elle va pas bien, tu sais. C'est sûr que, mais tu sais, non, là, tu sais, t'es en dépression, il y a des journées que tu vas mieux que d'autres. C'est pas tout le temps, hein, tu sais, si dark que ça non plus, là, tu sais.
Et si on parlait à ces personnes de la même façon dont on parle à tout le monde?
Ouais, c'est ça, exact.
Écoute, sur ces mots pleins de sagesse, Aimé, merci énormément d'être venue sur mon show.
Merci pour l'opportunité d'en parler. Je pense que c'est important. Puis J'aime beaucoup ton podcast.
Merci, j'aime beaucoup mon podcast, moi aussi. Donc, on en a déjà parlé. Il y a un lien dans la description pour aller voir ton podcast à toi.
Mais merci, Vincent.
Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas de m'encourager en laissant une évaluation ou un commentaire ou en vous abonnant à ma chaîne. Si vous désirez rester en contact avec moi, vous pouvez trouver Mental Health Much sur Instagram. En attendant le prochain épisode, continuez de parler de santé mentale le plus possible et restez prudents.